We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Très chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur We Do Biz pour les rendez-vous du recrutement. Ici Sandrine Chauvin, responsable éditoriale de la rubrique carrière du site capital.fr. Cette semaine, nous allons vous donner quelques astuces pour savoir exactement comment évaluer quelqu'un lors d'un entretien de face à face. Et pour ceux qui ont eu le plaisir de déjà écouter notre émission, on retrouve Nicolas Thébault, notre activateur de réseau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sandrine, bonjour à tous.
Donc Nicolas, vous êtes un expert du speed networking et justement cette technique, ça consiste à convaincre un recruteur en 3 minutes et aussi un candidat. Donc est-ce qu'il est possible d'avoir un jugement fiable en si peu de temps ?
Oui, en fait, vous avez dit 3 minutes, on peut parler de 7 minutes aussi. Le speed networking n'a été que la transposition du speed dating amoureux à la situation de recherche d'emploi. Donc, on a mis ça sur le marché il y a 8 ans, en 2002. Le délai, finalement, est quelque chose d'assez standard dans les speed dating amoureux et il suffit de transposer, finalement, à la situation de recherche d'emploi. Ceci dit, il ne s'agit pas de convaincre quelqu'un définitivement en 7 minutes par rapport à une compétence. Le but est de donner envie de se revoir d'une façon plus décontractée dans un entretien traditionnel.
Et on dit souvent que dans une première rencontre, alors que ce soit d'ailleurs la rencontre amoureuse ou la rencontre professionnelle, ce sont les 5 premières minutes qui comptent avec la première impression. Et est-ce qu'un recruteur doit se fier à cette première impression ?
Ben, qu'il le veuille ou non, de toute façon, il sera impressionné par une rencontre, quelle qu'elle soit. De mon point de vue, c'est progressif. Vous recevez souvent, quand vous êtes recruteur ou quand vous recherchez à recruter en tant que TPE, des CV. Donc un résumé de carrière, ensuite vous avez la personne au téléphone en quelques minutes et puis ensuite vous la voyez en face à face. Donc c'est très progressif, on se dévoile progressivement et de mon point de vue, plus cette progressivité est respectée et mieux c'est. C'est-à-dire il faut faire court au début pour aller dans des entretiens de plus en plus longs par la suite et ne pas vouloir monopoliser l'attention de cette personne d'emblée.
Mais est-ce que le danger, c'est pas de recruter des gens qui nous ressemblent finalement, vers lesquels on serait naturellement attiré, et non pas le candidat qui convient à notre entreprise ?
Alors, ce danger existe partout, hein, pas que dans les TPE. Et la seule parade pour éviter ce danger est d'avoir un regard croisé, d'être plusieurs à avoir rencontré le candidat. Et l'intérêt d'une rencontre express, c'est qu'elle permet en peu de temps finalement de rencontrer plusieurs fois la même personne, mais avec des interlocuteurs différents, qui ensuite se réunissent et peuvent justement discuter de leurs impressions, qui ne sont pas les mêmes naturellement.
Donc ça veut dire, si je vous suis, que quand on reçoit un candidat, il faut le faire à plusieurs ?
Alors vous pouvez le faire à plusieurs en même temps et vous pouvez le faire à plusieurs successivement. C'est tout l'intérêt de cet entretien rapide, parce que vous pouvez justement faire un entretien en face à face avec une personne et ensuite passer à d'autres collaborateurs.
C'est pas un peu déstabilisant d'être à plusieurs pour recevoir un candidat qui est déjà assez stressé par l'entretien de recrutement en soi ?
C'est encore plus déstabilisant d'être en face de 3 ou 4 recruteurs en même temps, vous voyez. Je trouve, en tant que recruté dans ma carrière, j'ai connu ça et je trouve ça un peu plus déstabilisant. Mais on peut faire les deux.
Donc finalement, ça veut dire quoi ? Qu'il faut arriver à des entretiens de face à face en one-to-one et ensuite faire rencontrer une autre personne de l'entreprise, par exemple un opérationnel, mais à chaque fois en one-to-one, c'est-à-dire pas à plusieurs.
Tous les outils sont possibles, celui-ci y compris. Et en particulier pour quelqu'un qui va être peut-être le collègue de la personne que vous recrutez, ça peut valoir le coup de les mettre en relation, même un bref instant, parce que chacun se fait une idée de l'autre en fonction, comme vous le disiez, de sa personnalité. Je me souviens avoir été recruteur et j'ai demandé toujours à la secrétaire d'accueil qui avait ouvert la porte à mon candidat de me donner ses impressions. Et c'était toujours extrêmement précieux, la façon dont le candidat se présentait à une tierce personne.
L'important pour le recruteur, c'est aussi de vraiment sentir la personne qu'il a en face de lui, essayer de déceler quelques points de personnalité. Et là, comment il peut faire, sachant que les dés sont quand même un peu pipés hein, lors d'un entretien de recrutement. Est-ce qu'il peut le mettre à l'aise ? Comment il peut faire pour qu'il soit vraiment lui-même hein ?
Pourquoi les dés seraient-ils pipés ? Je vois pas de raison. Il y a peut-être un facteur de stress et d'un côté et de l'autre, parce que c'est comme dans une relation d'achat. L'acheteur n'est pas toujours le mieux placé pour savoir s'il a bien acheté. Donc recruter, est aussi difficile qu'être recruté. Donc évidemment, il y a un peu de stress, mais comme vous le disiez, la meilleure façon de décompresser est effectivement d'avoir un échange un petit peu personnel également. Ça ne veut pas dire que vous allez dans l'intime et dans la vie privée, mais ça veut dire que vous pouvez aussi vous intéresser à la personne, au-delà des compétences et de sa motivation pour le poste, à son comportement. Je crois que c'est le troisième volet qui peut faire qu'une personne va s'adapter à l'entreprise. Le comportement et donc la personnalité.
C'est-à-dire, vous avez un exemple de question type, justement, pour déceler ces comportements ?
La première chose que je regarde sur un CV, et une des premières questions que je pose à une personne que je rencontre pour la première fois, c'est: qu'est-ce que vous faites en dehors du boulot ? Elle n'est pas obligée de faire un coming out et de me raconter sa vie, mais elle peut prendre un exemple d'un centre d'intérêt majeur pour elle et surtout de me dire comment elle le vit. Vous voulez un exemple, peut-être ?
Oui.
Quelqu'un qui jouerait au tennis, par exemple, serait un combattant et jusqu'au dernier point, jusqu'au tie-break, il espère encore gagner. Vous voyez, alors ça peut être un vendeur qui me dit « moi, je suis quelqu'un de combatif » et vous voyez, la preuve, c'est que je peux jouer sur la durée un match qui dure 5 heures en 5-7. Et puis, vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui va faire du bateau et qui va me dire « moi, ce qui m'intéresse, c'est de ramener l'équipage en entier par gros temps ». Donc on voit là le décideur, directeur général. Donc ce qui est important, au-delà du centre d'intérêt lui-même, c'est la façon dont la personne le vit.
Et la façon dont il en parle, en fait, c'est ça, de voir ce qu'il motive finalement au fond au niveau personnel.
Exactement, son élocution est également très intéressante. La façon dont il parle du poste à pourvoir montre sa détermination, l'envie qu'il a de travailler avec vous. On revient toujours à cela, mais c'est toujours une question d'homme et d'envie mutuelle de travailler ensemble.
Et en entretien de face à face comme ça, est-ce qu'il faut prendre des notes ou au contraire se concentrer sur ce que l'autre dit et aussi tout ce qu'il ne dit pas, c'est-à-dire ses comportements non-verbaux ?
Moi, je fais attention à tout, mais de toute façon, vous faites attention à tout, que vous le vouliez ou non, c'est inconscient. Donc les comportements physiques, la tenue vestimentaire, la voix, tout compte évidemment. Mais de mon point de vue, dans un entretien face à face, même cours, on peut tout à fait prendre des notes, on peut tout à fait poser des questions complémentaires. Pour moi, c'est un échange, si on parle vraiment d'un entretien express de 7 minutes, c'est un échange comme le serait une partie de tennis à la volée. C'est-à-dire qu'on répond rapidement à une question et on en pose une autre dans la foulée pour s'ajuster à l'intérêt de l'autre.
Et vous pensez que le candidat joue le jeu, lui ? C'est-à-dire, est-ce qu'il renvoie la balle ?
Il suffit de bien poser la règle du jeu et de bien expliquer comment ça fonctionne un entretien de 7 minutes. Si le candidat n'est pas familier avec cet exercice, il va avoir tendance à parler pendant 6 minutes et finalement, il oublie de poser la question au recruteur : est-ce que cette réalisation que j'ai faite dans ma carrière peut être transposable chez vous ? Et c'est cette question-là qu'il doit poser pour faire en sorte que le recruteur lui renvoie une autre question. Bien oui, ça pourrait être applicable dans telle condition. Est-ce que vous vous sentez à même de le faire ?
Et le recruteur, lui, comment faire pour qu'il ne parle pas trop non plus ? Parce que des fois, c'est lui qui monopolise la parole.
C'est vraiment un exercice inhabituel dans notre culture. On est dans une culture de l'éloquence, plutôt de l'écrit. Et là, il s'agit d'être rapide à l'oral. C'est un peu une culture anglo-saxonne, finalement, à laquelle il faut s'adapter. C'est dans l'émission précédente, je vous parlais de ma vocation à essayer d'adapter à notre culture ces nouvelles méthodes qui sont indispensables pour aller de pair avec la vitesse d'Internet, la vitesse des nouveaux médias. Ça ne veut pas dire que cet entretien sera le seul utile pour convaincre. Il y aura une suite. Si vous avez envie de travailler avec l'autre, évidemment, vous passerez ensuite à un entretien plus complet, normal, j'allais dire, standard.
Et est-ce qu'il faut avoir une grille d'évaluation, justement, pour être bien sûr qu'on passe tous les points en revue ?
Alors, dans un entretien express, je ne pense pas qu'on ait vraiment le temps de le faire, mais on peut évidemment poser au moins une question sur la compétence, avec une réponse courte, évidemment. En 7 minutes, on n'aura pas le temps de tout balayer. Au moins une question sur la définition de fonction, ça paraît les deux éléments minimum dans un poste. Mais le troisième élément, un des plus importants, c'est le comportement sera-t-il adapté, c'est-à-dire mon mode de fonctionnement est-il compatible avec celui de l'entreprise ?
Ça, c'est important pour les petites entreprises, dans le sens où s'il y a une petite équipe, il faut qu'elle puisse se coordonner.
J'allais vous le dire, c'est important pour une TPE, c'est presque plus important pour un grand groupe, parce que les grands groupes ont tendance finalement à embaucher des clones, des gens qui sont issus de la même formation. Et aujourd'hui, il y a une tendance justement dans les grands groupes de faire venir des gens qui sont d'une formation totalement différente pour ouvrir un petit peu l'esprit de la société. Alors que dans la grande chance d'une TPE, c'est qu'elle sera d'emblée beaucoup plus ouverte à des personnes de formation différentes.
Et donc il y a une grande part d'intuition, hein, on l'a compris, et aussi de feeling. Est-ce que justement on peut se fier à cette intuition naturelle qu'on a envers un candidat ?
Eh bien, dès lors qu'elle est croisée avec l'impression d'autres personnes, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ont un vécu, un tempérament différent, je pense que c'est cette moyenne qui fait la différence. Si tout le monde est absolument convaincu qu'un candidat est le bon pour l'entreprise, il y a très peu de chances que vous vous trompiez. S'il y en a un seul qui n'est pas d'accord, et si c'est le N+1 du candidat à embaucher, alors là, je crois qu'il ne faut pas hésiter à relancer un processus de recrutement plutôt que de risquer de se tromper.
Donc ça veut dire qu'il ne faut pas agir dans la précipitation non plus. Il faut se donner combien de temps ?
Je crois que c'est suffisamment important un recrutement pour prendre soin de savoir qui on recrute, surtout pour une TPE, parce que ça peut être mortel, une mauvaise embauche. Donc le temps dépend de votre croissance, évidemment, hein, si vous avez besoin de quelqu'un dans la foulée. L'important, je pense, c'est d'avoir bien préparé au départ l'identification de candidats. Elle est grandement facilitée par les sites sociaux. Hein.
Celle du candidat ou celle du poste ?
Alors, celle du poste, elle est effectivement faite en amont par le patron, mais aussi par ses salariés qui sont très à même de dire le profil idéal. Mais une fois que vous avez défini cette fonction, vous avez des outils aujourd'hui extraordinaires sur le web pour identifier les bons candidats. Alors, cet exercice, comme on le disait dans l'émission précédente, est très périlleuse. Parce qu'il faut faire attention de ne pas trop ébruiter non plus votre recherche d'emploi et de sélectionner ceux des candidats qui pourraient faire l'affaire. Donc se constituer une réserve en quelque sorte.
D'accord Nicolas, je vous remercie. Donc je vous propose maintenant un petit jeu qu'on a l'habitude de faire et que vous connaissez bien maintenant lors des rendez-vous du recrutement. C'est de trouver un petit dicton ou une anecdote qui correspond finalement à cette philosophie.
Alors je dirais un peu que pour plagier le slogan de L'Oréal, ce candidat parce que nous le sentons bien. Et je dis « nous » parce qu'il faut être plusieurs, et comme vous le disiez, c'est une question aussi d'intuition, donc le fait de sentir la personne, de l'avoir dans la peau, de la sentir au sens des sens, me paraît important.
Nicolas, merci d'être venu et pour tous ces précieux conseils. Et moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain rendez-vous du recrutement sur WeDoBiz.
Merci à vous.